Bonjour à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous, bienvenue dans le monde aujourd'hui au sommaire en cette matinée du mercredi 21 août. America's ready for a new chapter. America's ready for a better story.
We are ready for a president Kamala Harris. The dream that our parents and grandparents fought and died and sacrificed for. America. Hope is making a comeback.
Jour 2 de la Convention nationale des démocrates à Chicago, ici aux États-Unis, l'ancien président Barack Obama et son épouse Michelle étaient les stars de la nuit dernière. 28 cas de Mpox recensés en Côte d'Ivoire, dont un décès. En RDC, pays le plus touché, la situation reste difficile.
Le paquet que nous avons jusqu'à maintenant n'arrive pas à couvrir le besoin qui est ressenti dans la côté. Quant à ce qui concerne la population, il est difficile déjà d'estimer, comment je vais dire, le mental au fait qui le caractérise.
Jean-Claude Nzé, spécialiste du soutien au programme de Chorus International, analyse à suivre dans la partie magazine de cette édition. Le président Evariste Ndayishimiye continue de mener une implacable répression contre les voix critiques au Burundi, affirmation faite par Amnesty International dans un rapport publié ce mercredi. Et puis l'armée ougandaise dit avoir détruit en Centrafrique trois camps appartenant à Joseph Kony, le fondateur du groupe rebelle Armée de Résistance du Seigneur en Sport. Kylian Mbappé a saisi la Ligue de football professionnel pour régler son litige financier avec son ancien club, le PSG, davantage dans un peu plus de 10 minutes, juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. Démarrons cette édition du Monde aujourd'hui par la Convention nationale démocrate qui clôture sa deuxième soirée par un discours de l'ancien président Barack Obama, précédé par son épouse Michelle. Le couple, encore très influent au sein du Parti démocrate, a apporté son soutien à la vice-présidente Kamala Harris, candidate du parti à la présidentielle de novembre. Dili Diko fait le point.
Et donc, Barack Obama a déclaré « Nous sommes prêts pour une nouvelle histoire ». Le public était en liesse lorsque le 44e président des États-Unis est venu sur la scène après avoir été introduit par son épouse Michelle, qui a livré une adresse centrée sur les raisons pour lesquelles Kamala Harris mettra au premier plan le peuple américain. Michelle Obama a affirmé que Kamala Harris incarne l'avenir. Le couple Obama n'a pas hésité à critiquer le candidat républicain, disant que l'Amérique a déjà eu 4 années de présidence Trump et qu'un nouveau mandat serait pire que le premier. Barack Obama a fait usage d'humour pour embraser la foule à plusieurs reprises et ajouter que l'une de ses meilleures décisions a été d'avoir choisi Biden comme vice-président, ce dernier ayant choisi à son tour Kamala Harris comme colistière il y a 4 ans. Doug Emhoff, l'époux de Kamala Harris, a également fait son discours ce soir. Il a présenté une image plus familiale de Kamala Harris, expliquant que la vice-présidente est l'ancre de leur famille recomposée. Le camp démocrate s'est montré très uni avec les discours du leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, mais également celui de Bernie Sanders, le sénateur du Vermont. Demain, ce sera au tour de Tim Walz, le colistier de Kamala Harris, de prendre la parole pour accepter officiellement sa nomination en tant que candidat démocrate à la vice-présidence des États-Unis.
Vingt-huit cas de Mpox, dont un décès, ont été recensés en Côte d'Ivoire à la date d'hier 20 août, selon le docteur Daouda Koulibaly de l'Institut national de l'hygiène publique. Un précédent bilan le 1er août faisait état de 6 cas non mortels. La situation n'est pas alarmante, estime le docteur Koulibaly, qui parle d'un début d'une épidémie naissante. Toutes souches confondues, la RDC est de loin le pays le plus touché avec au moins 16 000 cas, dont 548 mortels. Le monde en sait déjà beaucoup sur le Mpox et l'on ne peut pas donc le considérer comme le nouveau Covid, a affirmé hier le directeur Europe de l'OMS Hans Kluge. Un internaute célèbre au Bénin pour ses critiques acerbes contre le président Patrice Talon a été emprisonné mardi en attendant l'ouverture de son procès en octobre selon des sources judiciaires. Alexandrine Rolognon.
Steve Mossou, connu sous le pseudonyme de Frère Onvi, a été présenté mardi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Cotonou, puis déposé en prison pour provocation à la rébellion, initiation et publication de fausses nouvelles et harcèlement par voie électronique. Très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur sa page Facebook, baptisée Frère Onvi Média de Combat, qui comptabilise 75 000 abonnés, Steve Amoussou multipliait les critiques en ligne contre le chef de l'État béninois et vivait au Togo depuis plusieurs années. Selon son avocat Aboubakar Baparapé, l'internaute a été enlevé dans la nuit du lundi 12 août dans la banlieue de Lomé par des individus non identifiés. Ceux qui l'ont enlevé ne se sont pas présentés à lui, ne lui ont pas présenté un mandat d'arrêt et encore moins décliné leur identité, selon Renaud Agbodjo, avocat au barreau au Bénin. Lundi, des députés et de nombreuses personnalités de l'opposition se sont rassemblés autour de la criette pour exprimer leur soutien aux chroniqueurs avant d'être dispersés par la police. Le procès de Frère Onvi s'ouvrira le 7 octobre.
Le président Evariste Ndayishimiye continue de mener une implacable répression contre les voix critiques au Burundi. C'est ce qu'affirme Amnesty International dans un rapport publié ce mercredi. L'ONG pointe notamment les actes d'intimidation et de harcèlement, les arrestations, les placements en détention et les procès iniques visant les défenseurs des droits humains, les militants, les journalistes et les membres de l'opposition. Amnesty International revient surtout sur le cas de la journaliste Floriane Irangabiye, condamnée en mai 2023 à 10 ans de prison, avant d'être gracié par le président le 14 août et libéré. Interrogé par l'AFP, le porte-parole du gouvernement, Jérôme Niyonzima, a demandé la liste de ses opprimés. En République démocratique du Congo, au moins 20 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation en bois motorisée surchargée dans le sud-ouest du pays, a-t-on appris mardi d'une autorité locale. Le point avec Antoine Bolamba.
Le naufrage a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche sur la rivière Lukeni, dans le territoire de Koutou, province du Maïndombé, dans le sud-ouest. Mais l'information n'a été donnée qu'hier mardi. Une baleinière surchargée qui allait vers Nioki, transportant à son bord environ 300 personnes et des marchandises, a fait naufrage, a déclaré à l'AFP Jacques Nzenza, administrateur du territoire de Koutou, joint au téléphone. Nzenza ajoute que les recherches se poursuivent. L'accident a eu lieu lorsque cette embarcation, qui naviguait la nuit, a heurté des morceaux de bois au niveau d'un village de pêcheurs situé à quelques 600 km au nord-est de Kinshasa, a-t-il indiqué. Nous ne cessons de rappeler à tous que c'est interdit de naviguer la nuit car c'est très dangereux, a dit l'administrateur du territoire. Les naufrages sont fréquents en RDC et les bilans sont souvent lourds.
L'armée ougandaise a annoncé hier mardi avoir détruit en Centrafrique trois camps appartenant à Joseph Kony, le chef fondateur de la guérilla de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur recherchée depuis 2005 par la justice internationale. Claire Morin-Gibou.
Les UPDF, les commandos de l'armée ougandaise, accompagnés de militaires sud-soudanais et centrafricains, ont lancé une opération contre trois camps appartenant à Joseph Kony en République centrafricaine, près de la frontière avec le Soudan. Dans un communiqué publié sur la plateforme X, l'armée ougandaise a précisé que ces camps avaient été détruits et du matériel saisi. Les membres restants de la LRA qui se réfugient encore en RCA ou ailleurs sur le continent africain seront traqués, a promis l'UPDF, les appelant à se rendre aux autorités pour être correctement traité et réhabilité. Fondée par Joseph Kony dans les années 80, la LRA a terrorisé pendant 30 ans de larges zones d'Afrique centrale. Cette milice est accusée d'avoir tué plus de 100 000 personnes et d'avoir enlevé 60 000 enfants, les garçons étant transformés en soldats et les filles en esclaves sexuelles. Chassée d'Ouganda, la LRA s'est éparpillée dans les forêts en République démocratique du Congo, de Centrafrique, du Soudan du Sud et du Soudan.
Dans le reste de l'actualité dans le monde, bien sûr, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exhorté hier le Hamas à accepter la dernière proposition américaine de trêve pour la bande de Gaza. Il a aussi exprimé des divergences avec Israël en concluant un nouveau cycle de navette diplomatique dans la région. M. Blinken effectuait son 9e voyage au Proche-Orient depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Le temps est compté après plus de 10 mois de guerre, a-t-il souligné, après s'être rendu au Qatar et en Égypte, deux pays médiateurs clés, et en Israël. Israël. Le ministère libanais de la Santé a annoncé que des frappes israéliennes ont fait au moins un mort et 19 blessés dans l'est du pays. Selon le ministère, les frappes ont eu lieu dans la plaine de Beka un jour après une attaque similaire dans la même région visant l'armée, d'après l'armée israélienne bien sûr, des entrepôts d'armes du Hezbollah, mouvement chiite libanais soutenu par l'Iran et allié du Hamas palestinien. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et VOAfrique.com. Nous passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le Ghana a entamé la construction d'une raffinerie de pétrole d'une capacité de 300 000 barils par jour dans la ville de Jomoro, dans le sud-ouest, qui comprendra également des usines pétrochimiques. La première phase du projet, estimée à 12 milliards de dollars, sera financée et construite par un consortium international. Le Ghana produit actuellement par jour environ 132 000 barils de pétrole brut et environ 325 millions de pieds cubes de gaz naturel. En Afrique du Sud, la société Transnet cherche à obtenir un allègement de sa dette auprès du gouvernement afin d'assainir son bilan et rétablir sa capacité de transport ferroviaire et portuaire, a déclaré mardi l'entreprise publique de logistique. Transnet a une dette de 7,30 milliards de dollars et a du mal à fournir des services ferroviaires et portuaires adéquats en raison de la pénurie d'équipements et des retards de maintenance après des années de sous-investissement. Terminant par la dette extérieure de l'Égypte qui a diminué de 7 milliards de dollars au cours du premier trimestre de cette année, a indiqué la Banque centrale hier. Les finances du Caire ont été stimulées fin février par la vente aux Émirats arabes unis pour 35 milliards de dollars des droits de développement d'un terrain méditerranéen à Ras El Ekna dans le désert occidental.
Pour la page sportive de ce journal, retrouvons Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yacouba.
Kylian Mbappé a saisi la Ligue de football professionnel pour régler son litige financier avec son ancien club, le Paris Saint-Germain.
Le capitaine de l'équipe de France a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel pour régler son litige financier avec le PSG, son ancien club, indique une source proche du dossier, confirmant une information du Monde. L'attaquant du Real Madrid est engagé depuis plusieurs semaines dans un bras de fer avec le PSG, qui a dû se résoudre à voir partir libre sa star cet été et réclame des salaires et primes impayées. Selon Le Monde, Mbappé demande le versement d'une somme de 55 millions d'euros qui comprend l'ultime tiers d'une prime à la signature, 36 millions d'euros bruts, que le joueur était censé toucher en février. Les trois derniers mois de salaire prévus dans son contrat, avril, mai, juin, ainsi qu'une prime éthique sur ces trois mois. Le quotidien indique également que Mbappé a aussi saisi l'UEFA par l'intermédiaire de la Fédération française de football. En début d'année, les deux camps avaient affirmé que Mbappé avait renoncé à une partie de ses primes dans un accord passé avec le PSG l'été dernier après sa mise à l'écart de l'équipe durant un mois, couvrant financièrement le PSG du départ libre du joueur sans indemnité de transfert. Selon une source proche du dossier, le non-versement du salaire d'Mbappé en avril était lié à cet accord conclu à l'été 2023 entre le joueur et le PSG.
Le défenseur du Bayern Munich, Josip Stanišić, absent plusieurs semaines.
Le défenseur international croate s'est blessé à un genou durant un entraînement et sera absent quelques semaines, a annoncé mardi le club bavarois. Stanišić, 24 ans, qui s'est blessé lundi, souffre d'une torsion du ligament latéral du genou droit et devra être opéré, a précisé le Bayern Munich dans un communiqué. Le Bayern Munich débute sa saison en Bundesliga dimanche par un déplacement à Wolfsburg. Le club bavarois devra composer avec l'absence d'un autre de ses défenseurs, Hiroki Ito, blessé à un pied, est également indisponible plusieurs semaines.
En tennis, le joueur italien Jannik Sinner est blanchi après deux contrôles antidopage positifs au Clestoball.
Le numéro 1 du tennis mondial a été blanchi par un tribunal d'indépendants après avoir été testé positif au Clostebol à deux reprises en mars 2024, substance à laquelle il a été contaminé involontairement, a annoncé mardi l'Agence internationale de l'intégrité du tennis.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yacouba Ouédraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. La République démocratique du Congo espère recevoir les premières doses de vaccins contre l'épidémie de Mpox la semaine prochaine. Selon le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, la maladie a déjà fait au moins 570 morts depuis le début de l'année, enregistrant 16 700 cas. La RDC est l'épicentre de l'épidémie dont la propagation du virus suscite une inquiétude croissante en Afrique et au-delà. Eric Manirakiza a joint à Goma dans l'est de la RDC Jean-Claude Nzé, spécialiste du soutien au programme de Chorus International.
Je suis présentement dans la ville de Goma. La situation, je dirais, ne s'est pas améliorée. Donc, du point de vue de la transmission, déjà dans les dernières 48 heures, nous avons enregistré une nouvelle zone de santé avec un cas confirmé de Mpox, donc une quatrième zone de santé dans la province du Nord Kivu. Et ce qui se passe, en fait, c'est que nous vivons sur le terrain. Évidemment, il y a des acteurs humanitaires avec le gouvernement et les autres acteurs humanitaires. Le paquet que nous avons jusqu'à maintenant n'arrive pas à couvrir le besoin qui est ressenti dans la communauté. Et quant à ce qui concerne la population, il est difficile déjà d'emblée d'estimer, comment je vais dire, le mental au fait qui le caractérise, parce que comme vous le savez, la province du Nord Kivu est une province qui est touchée par que ce soit les inondations, les guerres, les catastrophes naturelles de l'autre côté, mais aussi le maladie. Donc il n'y a pas longtemps c'était Ebola. C'est là au fait que tu sens qu'il y a la perte qui s'installe, parce que on n'arrive pas à maîtriser les enjeux autour de la contamination elle-même. C'est rare et voire même difficile de trouver, par exemple, de points chauds de la ville de Goma en particulier, même les autres informations qu'on a eues d'autres territoires, d'apprendre qu'il y aurait, par exemple, la mise en pratique de mesures barrières pour, lutter contre la propagation de cette maladie, le lavage de mains, éviter... par exemple, le contact direct avec les uns et les autres. Et je sais que d'un côté, le gouvernement est en train de s'assurer que les gens, en fait, la communauté ou la population comprennent les dangers qui nous guettent. Et malheureusement, il est fort regrettable que dans les jours qui viennent, si la situation est maintenue telle qu'elle, nous risquons de nous retrouver dans une situation où nous n'arrivons pas à gérer ou à limiter la propagation de cette maladie.
La RDC est supposée recevoir les premières doses de vaccin la semaine prochaine.
C'est une bonne nouvelle pour tout le pays, mais aussi les provinces affectées directement qui ont rapporté plus de cas de Mpox. Il est, par exemple, attendu une réunion au niveau national autour de l'OMS, autour du gouvernement, du secrétariat général du ministère de la Santé, des partenaires nationaux et internationaux qui travaillent en collaboration avec le gouvernement, pour s'assurer que le plan de communication et de vaccination de l'ensemble des populations dans la République, en fait les populations directement affectées, que cette campagne, cette vaccination se passe dans tout ce qui est dit, parce que nous avons là environ 4 millions de personnes qui éventuellement dans les prochaines semaines pourraient avoir accès à ces vaccins. Et donc on espère que ces vaccins vont d'une certaine façon faciliter à lutter contre la propagation de ces virus dans les communautés qui sont directement affectées.
Jean-Claude Nzé, spécialiste du soutien au programme de Chorus International à Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Sénégal, les réseaux sociaux sont de plus en plus un terrain fertile pour les agro-influenceurs grâce à des vidéos qu'ils font pour promouvoir leurs activités sur les plateformes sociales. Les jeunes entrepreneurs augmentent leurs gains en minimisant leurs coûts de production. De nouveau, Eric Manirakiza.
Donc pour Accroupi à côté d'une pile de mangue fraîchement cueillie dans l'un de ses champs à Gadiaga, à une soixantaine de kilomètres de Dakar, l'agriculteur Mam Abdou Diop tourne une vidéo TikTok, espérant qu'elle fera un carton auprès de ses abonnés sur les réseaux sociaux.
Je faisais juste les vidéos par plaisir. Je ne savais même pas à quel impact ça avait les réseaux sociaux. Mais dernièrement, j'ai eu beaucoup de clientèle venant de l'Europe surtout, qui via, même à distance, ils voient ce que je fais.
Depuis 2020, Mam Abdou Diop dirige une entreprise qui gère des parcelles de terre et cultive une gamme de produits. Il assure que ses bénéfices sont grimpés en flèche et sa clientèle a plus que doublé depuis qu'il a commencé à promouvoir son activité sur ses comptes TikTok et Instagram où il compte respectivement environ 14 000 et 2 000 abonnés.
Grâce à les vidéos que j'ai fait, j'ai eu double ou triple clientèle qui sont venues de plus s'ajouter à ma clientèle fixe. Donc pour moi, c'est quelque chose de plus, les réseaux sociaux. Donc c'est un très bon marketing parce qu'au début, moi j'avais contacté d'un groupe qui faisait du marketing, mais bon, sans aucun impact.
La vente via les réseaux sociaux permet à Mam Abdou Diop de contourner les intermédiaires coûteux ou inefficaces et donc de réduire ses prix. Pape Ndiaye, vendeur de jus de fruits à Dakar, a connu Mam Abdou en parcourant son compte Instagram.
Et en scrollant sur Instagram, c'est là que j'ai vu sa publication. Donc j'ai vu qu'il vendait des mangues à un coût accessible, ce qui m'arrange un peu parce que moi je transforme et je revends avec une marge bénéficiaire. Donc j'ai vu la qualité qui était, donc je l'ai contacté et il m'a livré dans les délais.
Formé en production agricole Noga Essen, 27 ans, qui se décrit comme une agri-influenceuse, gère des champs pour une douzaine de clients. Sur Instagram, elle compte désormais plus de 3000 abonnés. Elle partage des vidéos dans lesquelles on la voit donner des conseils sur la façon de cultiver.
En général, les clients que j'accompagne, je les trouve au niveau des réseaux sociaux. Ils me contactent directement sur Instagram. Donc je leur donne mon numéro. Après, je fais des visites au niveau de leur champ. Et maintenant, je les accompagne sur la production.
Le Sénégal importe près de 70% de sa nourriture, bien que 60% de la population travaille dans l'agriculture, selon le Fonds international de développement agricole. Le nouveau gouvernement a fait de la souveraineté alimentaire l'une de ses priorités. Pour la jeune population de plus en plus urbaine et technophile, les plateformes numériques offrent une opportunité d'innovation.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Rendons-nous maintenant au Nigeria. Dans ce pays en proie à une insécurité alimentaire, des jeunes et des start-up cherchent à révolutionner le secteur agricole grâce à la technologie. Dans l'état de Kaduna, Shamsoudine Djibril a inventé un drone capable de détecter les maladies des cultures. Depuis Abuja, le reportage d'Al-Hassan Bala, récit Arzuma Kompaori.
Dans leur petit espace de travail à Kaduna, état du nord-ouest du Nigeria, Shamsoudine Djibril, 24 ans, et son équipe créent des drones conçus pour détecter les maladies des cultures et pulvériser des insecticides. Une enquête nationale sur l'agriculture réalisée en 2022 a montré que certains agriculteurs nigérians perdaient jusqu'à 80% de leurs récoltes à cause des ravageurs et des maladies. Djibril affirme que sa jeune entreprise, Vora Robotics, contribue à l'élaboration de pratiques agricoles plus efficaces.
Nous utilisons des matériaux locaux disponibles pour le développer afin d'être rentable. C'est le drone local que nous avons fabriqué. Il est temps de réfléchir à la manière dont nous pouvons apporter des solutions aux agriculteurs et les aider à détecter les maladies dans leurs exploitations.
Djibril explique que le drone prend des photos des cultures et les envoie à une application que lui et son équipe ont créée et qui analyse et fournit des résultats en quelques minutes.
Cette application vous indiquera les symptômes et les traitements à appliquer à l'exploitation en question. Elle vous indiquera aussi le produit chimique que vous êtes censé utiliser, peut-être en fonction du type de produit. Est-ce pour l'herbe ou pour les insectes?
Rien qu'en 2024, les producteurs de gingembre ont perdu plus de 7 millions de dollars de récolte à cause de la maladie. Lawal Ibrahim Dambouchia, un agriculteur, explique que l'incapacité à détecter les maladies des cultures à un stade précoce les désavantage considérablement.
Si nous pouvons avoir un drone qui détecte les maladies des cultures, cela nous aiderait beaucoup.
En tant qu'agriculteurs, nous ne connaissons pas vraiment les maladies au stade initial. Nous les connaissons mieux lorsqu'elles deviennent graves. Honnêtement, quand on voit comment cette machine vole et fonctionne, c'est une très bonne nouvelle pour nous.
Les experts agricoles affirment que le gouvernement nigérian peut faire davantage pour promouvoir l'utilisation de la technologie dans le secteur agricole. L'un d'entre eux, Ezekiel Boulous Doka, estime qu'une technologie telle que le détecteur de maladies de culture peut changer la donne dans la recherche de la sécurité alimentaire au Nigeria.
Il y a tant d'innovations qui peuvent transformer l'agriculture nigériane, mais comment les autorités les acceptent-elles? Comment les font-elles avancer? Comment se battent-elles pour qu'elles soient produites à grande échelle?
Scallop. Djibril et son équipe espèrent recevoir le soutien du gouvernement et du secteur privé pour étendre leur innovation à l'ensemble du pays.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, les électeurs du comté de Northampton, dans l'État pivot de Pennsylvanie, ont choisi le vainqueur de toutes les élections présidentielles américaines depuis 1920, à l'exception de trois d'entre elles. Steve Herman de la VOA analyse les perspectives de la démocrate Kamala Harris et du républicain Donald Trump dans ce comté, souvent considéré comme un baromètre électoral. Le récit est de Michel Joseph.
Le comté de Northampton, en Pennsylvanie, s'est souvent retrouvé au cœur des révolutions industrielles des États-Unis, ainsi que des évolutions politiques. Sa ville, Easton, fait partie des trois endroits où la déclaration d'indépendance a été lue pour la première fois au public. Bethlehem, autrefois réputée pour sa puissance industrielle, est aujourd'hui une destination touristique prisée, accueillant des événements tels que le Music Fest, qui a attiré plus d'un million de visiteurs cette année. La ville et ses électeurs ont retrouvé le sourire, contrastant avec les années sombres d'il y a deux décennies, lorsque l'ancien titan industriel Bethlehem Steel a été dissous et vendu. Samuel Chen est stratège républicain au sein du Little Group.
La Chine est désormais active dans les secteurs de l'acier et ils veulent savoir ce que ses candidats vont faire pour ramener ses emplois ou pour reconstruire l'Amérique.
Le comté de Northampton a cette capacité singulière de choisir les vainqueurs des élections présidentielles, ayant choisi toutes les élections depuis 1920, sauf trois pour trois d'entre elles. Christopher Borick est professeur de sciences politiques au Muhlenberg College à Allentown, en Pennsylvanie.
Je pense que ce qui rend vraiment magique cette activité à prédire ce qui se passe tant au niveau de l'État qu'au niveau national, c'est sa diversité.
Dans cette diversité, on trouve des agriculteurs, des résidents des banlieues, des arrivants de New York et de Philadelphie, ainsi qu'une population hispanique en pleine croissance. Écoutons de nouveau Samuel Chen, stratège républicain.
Les républicains purs et durs et les démocrates purs et durs sont tellement égaux en nombre, avec un léger avantage pour les démocrates. Les petits pourcentages d'électeurs prêts à changer du camp vont décider de l'élection encore et encore et encore.
C'est pourquoi ce comté est connu sous le nom de Swing County USA, un endroit où une proportion significative d'électeurs partagent leur vote entre les partis et se concentrent sur les enjeux plutôt que sur les personnalités. Rachel Lowell, électrice du comté de Northampton.
Être président, c'est un travail. C'est pourquoi nous nous soucions davantage de savoir si le travail sera bien fait.
Cette jeune maman, Rachel Lowell, se préoccupe des droits des femmes et des politiques environnementales. Avec le comté de Northampton comme indicateur de l'actualité politique, les campagnes de Trump et de Harris continueront de se concentrer sur ce comté jusqu'au jour de l'élection.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yacouba Ouidraougo, Lionel Gaïma à la réalisation. Ainsi va le monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.